France Culture.
Éléanor Marx, 1855-1898. Quand l'époque vous rattrape. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Rafik Zénine.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on lise ce questionnaire qui était qui passait dans toute la famille et auquel elle répond à 10 ans ? Votre vertu préférée, la franchise. Chez un homme, le courage. Votre trait caractéristique, la curiosité. Votre idée du bonheur, le champagne. Votre idée du malheur, avoir mal aux dents. Le vice que vous excusez le plus, faire l'école buissonnière. Votre répugnance, le mouton froid. Votre occupation favorite, la gymnastique. Votre poète favori, Shakespeare. Votre héros favori, Garibaldi. Votre héroïne favorite, Lady Jane Grey. Votre fleur favorite, toutes les fleurs. Votre couleur favorite, le blanc. Votre devise et maxime favorite, en avant.
C'est Éléanor, dite Toussy, la cadette des filles de Karl et Jenny Marx, qui répond à ce questionnaire qui circulait dans toute la famille et auprès des proches. Éléanor Marx n'est pas un nom qu'a retenu l'histoire avec un grand H. Pourtant, sa vie n'est pas moins riche que celle de son père, l'auteur du Manifeste du Parti communiste et du Capital. Née le 16 janvier 1855, elle poursuit son œuvre en y ajoutant une attention toute particulière au sort des femmes, à une époque où il est particulièrement difficile pour elle de vivre selon ses aspirations.
Moi, je suis Véronique Fauvincenti, je suis responsable des collections du Musée de l'Histoire Vivante à Montreuil, qui travaille à faire des expositions qui concernent l'histoire du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux. Ouais, alors j'ai sorti quelques volumes et quelques gravures. Alors le problème, c'est qu'il faudrait les faire un à un, bien évidemment. Donc là, on est dans les années plutôt 1840-1850. Donc il va y avoir parfois des représentations, de, par exemple là, d'usines. Là, c'est la fabrication du fer. Donc voilà, ce type donc de publications qui sont à destination des ouvriers et des ouvrières. Donc l'atelier organe spécial des ouvriers, rédigé par des ouvriers exclusivement. Voilà, les ouvriers français. Je ne sais pas ce qu'ils en est pour les Anglais, mais ne sont pas, ne sont pas analphabètes, en fait.
Plutôt des ouvriers qualifiés, quoi.
Oui, oui, oui.
Des tailleurs, des cordonniers, des forgerons, des coiffeurs, enfin, des typographes, bien sûr. Oui.
Fabrice Ben-Simon, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université et je travaille sur l'histoire britannique.
Ce qui est intéressant dans ce dessin, je ne sais pas, c'est par exemple, donc on voit une fonderie. Alors les fonderies à l'époque sont très inspirées par les techniques de la métallurgie, de la sidérurgie britannique, quoi. Il y a énormément de travail manuel, très physique, extrêmement physique. Et ça, c'est aussi un aspect de l'essor industriel, c'est qu'en fait, les machines, pendant toute une période, ne remplacent pas le travail manuel. En fait, elles créent du travail manuel, elles sont utilisées par des ouvriers qui se pressent de plus en plus nombreux dans ces fabriques des villes en pleine expansion. Et c'est un des aspects très importants des changements de la société de l'époque, quoi. Alors Londres, c'est une très grande ville. Pendant très longtemps, c'est la plus grande ville au monde. Et donc, dans les années 1880, il y a des centaines de fabriques, il y a des dizaines de milliers de travailleurs dans le port, mais également dans l'industrie métallurgique, dans le textile, dans l'alimentaire, dans de très nombreuses industries de transformation. Et au milieu du siècle, la Grande-Bretagne est le pays qui est pleinement engagé dans la révolution industrielle. La classe ouvrière britannique, c'est un peu la première qui a un peu cette importance. Pour donner quelques idées sur les conditions de vie et de travail. Alors, les conditions de travail, il est assez banal vers 1870-1880 de travailler 12 heures par jour. Des emplois qui sont souvent extrêmement physiques. Beaucoup d'emplois manuels de terrassement, de force, extrêmement durs. Donc c'est une ville qui s'est développée très vite, avec énormément de taudis, avec des quartiers insalubres, avec des gens qui habitent dans des caves, etc. Enfin, à l'époque, c'est une vie très difficile. Espérance de vie limitée, beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies.
And old Bill Smith's been dashed, or is all his work the same old ram? Strange to say, we've struck a gold mine and we've shared the wealth we've found. How it happened, there's a miser had never let us shift his dust. Well, a Tuesday night he died, and Wednesday, like two burglars in we bust.
Eleanor Marx wurde in London geboren, weil die Familie.
Eleanor Marx est née à Londres parce que la famille a dû fuir l'Allemagne, ou plus précisément la Prusse, en 1849, étant donné que Karl Marx a été poursuivi en Prusse pour rébellion.
Eva Weisweiler, biographe d'Eleanor Marx.
Il avait publié des feuillets révolutionnaires, des écrits communistes, et on l'accusait notamment de susciter la rébellion au sein de la population et de se rebeller contre le pouvoir en place. Et donc, ils ont choisi Londres parce que Londres était une terre d'accueil pour les réfugiés politiques. C'était une ville qui était assez libérale. Et ils avaient, en choisissant Londres, la certitude de ne pas être extradés vers la Prusse.
Alors, Marx et encore plus sa femme viennent de milieux bourgeois, même aristocratiques pour sa femme. Mais en fait, dans les années 50, ils traversent une période très difficile matériellement. Donc c'est une période très difficile. Ils ont plusieurs enfants qui meurent en bas âge. Les Marx, dans les années 50, où ils habitent à Soho, qui est un quartier pauvre de Londres, où de nombreux réfugiés sont installés.
Et avec le studio.
Venez, ça, c'était la,
c'était la chambre à coucher. Oui.
C'est la cuisine, puis il avait un bureau d'autre côté.
Il avait le bureau ici.
Voilà.
C'était le bureau ici, et puis il avait une autre chambre pour les petites filles. Il avait deux filles. Oui. Ouais.
Bien, nous sommes donc dans le bureau où Karl Marx travaillait.
Jean Ellenstein, historien.
Alors, une question se pose. De quoi vivait Karl Marx quand il travaillait à ce bureau? Alors, il faisait des études, mais de quoi vivait-il? Eh bien, je crois que son activité principale a été le journalisme durant toute l'époque où il a travaillé dans cette pièce, qui, nous le voyons, n'est pas très grande.
C'est très bas de
très plafond, bas de plafond si naturellement. Hein, ouais. C'était un logement très pauvre.
On est de taille moyenne finalement, ouais. On ne peut même pas lever le bras. Ouais.
Ce sont des combles qui ont été aménagés. Mmh. C'est une sorte de grenier qui a été aménagé et qui était loué avec une superficie qui n'est pas bien considérable, puisque ça fait peut-être 3 mètres sur 2. Quoi. C'est une pièce qui fait 6-7 mètres carrés au maximum.
Oui, le bureau.
Le bureau.
Une des façons qu'ils ont de tenir, c'est grâce à l'aide de l'ami Engels, qui lui a repris un emploi dans la fabrique familiale, dont le père est un associé à Manchester, et qui aide les Marx à vivre, quoi, à traverser cette décennie très difficile. Quoi. Dans les années 60, leurs conditions s'améliorent, ils quittent Soho, et ils ne sont plus dans les difficultés les plus importantes qu'ils ont traversées auparavant.
C'est une famille, je dirais, de moyenne bourgeoisie.
Michel Perrault, historienne du monde ouvrier et de l'histoire des femmes.
C'est une famille qui correspond d'une certaine manière très bien à l'ère victorienne. Marx est un intellectuel, c'est vraiment un intellectuel type. Engels a joué un grand rôle pour les filles de Marx, notamment pour celle que nous appelons Toussy, c'est-à-dire Éléanor, la plus jeune. On l'appelait le général, il l'appelait le général Engels chez les filles Marx. Et il est généreux, il est accueillant, il est affectueux, il joue un rôle véritablement de tuteur pour notamment Éléanor. C'était vraiment important.
Alors, Éléanor Marx, elle avait une position un petit peu particulière, puisque peu de temps après sa naissance, son frère, qui était un peu plus âgé qu'elle, donc son frère Edgar, est décédé. Et Edgar avait cette position du fils préféré, du fils chéri. Donc, pendant très longtemps, Karl Marx était dans le deuil de cet enfant perdu. Cet amour, en fait, pour cet enfant perdu, s'est reporté sur la plus jeune enfant, donc Éléanor. Et elle a été vraiment éduquée comme un fils de remplacement.
Donc, Éric Lafont, ex-directeur de ce musée.
Alors, ce tableau était là. Là, je précise, on a un espace naturellement qui n'accueille pas le public pour l'instant. Et le tableau, comme il est assez important, c'est difficile de le déplacer. Ce tableau-là, c'est Frédéric Languet. Ce qui est intéressant pour nous, c'est comment on peut utiliser cette peinture dans le contexte historique d'une analyse, d'une étude. Donc, elle part d'une photo qui a été faite à Londres. Donc, quand on regarde le tableau, eh bien, Karl Marx est à droite, Friedrich Engels est à gauche, les trois filles sont assises, et au milieu, entre Engels et Karl Marx, le peintre a rajouté la femme de Karl Marx, Jenny, qui ne figure pas sur la photographie, prise à Londres.
C'est cette photo où on voit Marx et Engels avec les deux filles aînées, donc Jenny et Laura.
Anne Longuet-Marx, maître de conférences en littérature comparée.
Et entre les deux, il y a la petite Toussy qui est... Alors c'est amusant parce que moi j'ai toujours eu l'impression que c'est... Elle est évidemment l'enfant, alors que les deux sœurs aînées, qui n'ont jamais que 10 et 11 ans de plus qu'elle, ont vraiment l'air de dames. C'est lié aussi à la fois au fait qu'elles sont chapeautées, qu'elles ont ces robes très vastes et très victoriennes. Et donc, elle a l'air à la fois très décidée. On voit bien qu'elle veut séduire. En même temps, elle n'est pas particulièrement jolie, mais il y a quelque chose de très énergique, en tout cas dans ce visage. Dans un portrait qui se trouve au musée de l'histoire vivante de Montreuil, qu'on vous a peut-être montré, qui a été fait par un des cousins de mon père, qui n'est pas un très bon, c'est pas de la très bonne peinture, mais il a rajouté, si je me souviens bien, la mère, comme Johnny s'il meilleur, fallait oui. qu'il y ait la famille complète.
Donc ça, c'est sans doute mai 64. Éléanor, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, elle a une dizaine d'années, il y a beaucoup de témoignages quand même sur le fait que c'est une famille aimante, quoi, très aimante, avec beaucoup de sorties dans les parcs, beaucoup de lectures des classiques de la littérature, de Shakespeare, de Dante.
Est-ce que la famille Karl Marx, quand elle venait sur cette colline de Hampstead, entendait ces canards dans ces plans d'eau ?
Peut-être les ancêtres de ces canards. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils aimaient venir se promener là tous les dimanches. Ce n'est pas très loin, à pied, il y a à peine une heure de route. Et je crois que c'était une sorte de rite. On peut très bien imaginer, et c'est et tout à fait vraisemblable,
les petits plans d'eau
que la famille Marx avait déplié les affaires qu'ils emmenaient pour manger et qu'ils sont en train, tout en regardant les temps, de, manger, de parler, de rire. Pas tellement de parler politique, car on avait décidé pendant ce dimanche-là de laisser la politique, l'économie de côté. On s'amusait, on discutait et on gardait la ville.
Chanteront le temps des cerises, les guérossignols, les merles vocales seront tous en fête. Les belles auront la folie.
Les Marx sont attentifs à toutes les expériences révolutionnaires qui secouent l'Europe, en particulier la Commune de Paris, qui tente en 1871 de mettre sur pied une société égalitaire et une politique sociale inspirée par le peuple. Elle est réprimée dans le sang et de nombreux communards quittent la France pour trouver refuge en Angleterre. Les deux sœurs aînées d'Eléanor, Jenny Fille et Laura, se marient d'ailleurs avec deux d'entre eux, Charles Longuet et Paul Lafargue, l'auteur du Droit à la paresse.
Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail.
La famille Marx, à l'époque, voit défiler chez elle de nombreux réfugiés des révolutions de 1948. Dans les années qui suivent, des membres de l'Internationale, et puis encore un peu après, des réfugiés de la Commune de Paris. Donc, Eléanor, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est en permanence dans ce bouillonnement familial, politique, très cosmopolite, avec beaucoup de gens qui viennent d'autres pays, mais qui partagent des aspirations communes.
Anne Longuet-Marx, qui êtes-vous dans l'arbre généalogique des Marx ?
Je suis la petite fille de Jean Longuet, qui était le premier petit-fils de Karl Marx. Donc je suis l'arrière-arrière-petite-fille, par la voix de la fille aînée de Marx, Jenny, qui s'est donc mariée à Charles Longuet, qui était communard et qui s'est réfugié à Londres. Alors, l'autre photo, c'est celle-ci, cette première, où elle est accoudée à une table. Elle a l'air un peu studieuse, mais je trouve que là aussi, on voit le côté très direct. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce regard qui, moi, me plaît beaucoup, qui est un regard très frontal, qui est à la fois curieux, énergique et qui attend beaucoup. Ah oui, j'avais oublié de dire qu'on voit son côté très espiègle et elle a énormément d'ironie. Juste après, elle est un petit peu plus grande et vous voyez comme elle a l'air pas souriante du tout. Elle se tient bien droite, mais elle pourrait aussi bien avoir une badine et être habillée en garçon. En même temps, elle est charmante, hein, mais bon, elle a son quant à soi. Elle voulait devenir capitaine de vaisseau et elle a demandé la permission, allant discuter avec la famille, de savoir si elle pourrait pas s'habiller en garçon pour pouvoir s'engager comme capitaine de vaisseau.
Qu'est-ce qui ressort le plus dans ce qu'on vous dit d'elle ?
Je pense la vivacité, l'intelligence, la générosité et la volonté d'exister comme femme en dépit de tout.
Il va peut-être falloir que vous m'aiguillez un petit peu si vous avez des préférences en termes de thé, thé noir, thé vert.
Alors moi plutôt thé noir, ouais.
Thé noir, ouais. On part sur du thé noir. Ok.
Camille Le Boulanger, nous sommes ici dans le premier salon de thé anglais qui est ouvert à Paris. Il a beau avoir été ouvert en 1928, donc un petit peu après les années qui nous intéressent. Est-ce qu'il pourrait ressembler à un des décors de votre livre ?
Ah, j'imagine, il y a quelque chose dans le lambris, et peut-être quelque chose au niveau justement de l'ambiance sonore et de la manière dont les plafonds assez bas absorbent le son, peut-être.
Vous avez fait le choix d'une forme littéraire pour votre récit, donc Jenny Marx, Vivre et lutter avec Karl. Comment on aborde l'histoire des personnages qui ont réellement existé quand on les incarne dans un roman ?
Le bouquin est devenu quelque chose d'un peu plus hybride entre le récit, on va dire, historique, travaillé sur documents, sur donc les archives, la correspondance, etc., et des scènes romancées qui ont pour but d'essayer, d'une part, de rendre vivant cette matière historique-là, et également de thématiser, en fait, à travers le roman, à travers la fiction, ce que j'avais envie de dire. En fait, Eleanor, c'est un personnage qui suscite tout de suite l'imagination, il y a comme une effusion. Par exemple, après un an après la Commune de Paris, pour éviter l'arrestation, Paul Lafargue quitte la France, traverse les Pyrénées avec sa femme et les deux autres sœurs Marx, qui, quand elles repassent la frontière dans l'autre sens, sont arrêtées par le préfet. Elles sont fouillées, elles sont détenues. Il y a toute une histoire selon laquelle Eleanor mange une lettre qui les aurait compromises. Donc il y a ce que je trouve intéressant autour du personnage d'Eleanor Marx, en dehors des détails biographiques, c'est que c'est celle peut-être des trois sœurs Marx qui se prêtent le plus au romanesque. Jenny, mère, du coup, la qualifie de « a politician from top to bottom », donc une politicienne des pieds à la tête. Donc c'est vraiment cette figure-là, je pense, qui est très jeune, se fait voir chez Eleanor Marx.
Passionnée de littérature et de théâtre, Toussy prend des leçons pour devenir actrice et monte sur les planches. Elle effectue également la traduction anglaise de Madame Bovary, le roman de Gustave Flaubert. Mais ses activités politiques, qu'elle mène de front, prennent le pas. Secrétaire de son père, elle œuvre pour la construction d'un parti promouvant le socialisme, participe aux réunions de l'Internationale ouvrière et publie des textes.
C'est une femme qui pense, c'est une femme qui écrit et qui aime écrire. Alors, elle n'écrit pas beaucoup de livres théoriques, mais c'est une excellente journaliste. Et on voit là sa pensée qui est toujours incluse dans son action. L'apport d'Eléanor, encore une fois, est un apport de reportage concret sur les grèves, sur le mouvement ouvrier, le milieu, etc. C'est peut-être ça son apport principal. Eleanor Marx est fascinée par le milieu ouvrier et Eleanor est fascinée par les grèves. Et quand il y a des grèves, elle y va. Elle y va pour manifester sa solidarité, pour faire quelque chose, par exemple récolter des fonds, qui est des secours, et prendre la parole. Elle est une excellente oratrice, elle parle très bien.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tremble en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, votre table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale. Coupons-nous et demain l'international.
À partir de 1888-89, il y a tout un essor du mouvement ouvrier britannique, il y a de très nombreuses grèves, et elle devient une figure très marquante de ces grèves à Londres. Je prends un exemple, la grève des ouvriers du gaz en 1889. Elle se retrouve à la direction du syndicat des ouvriers du gaz, et elle est sans doute, au tournant des années 1890, la figure la plus populaire du mouvement socialiste britannique, un mouvement en développement à l'époque. That the communists could possibly conceive of. In other words,
a distinction between socialism and... Nous aspirons à ce qu'un jour, il n'y ait plus une classe qui en soutient deux autres, mais une société sans oisifs au sommet, ni chômeurs à la base. Nous devons parler de la cause tous les jours et faire que les hommes, et surtout les femmes que nous rencontrons, rejoignent nos rangs pour nous aider.
Elle a participé à des manifestations qui étaient interdites, par exemple à Hyde Park. C'était une combattante virulente, même elle combattait effectivement physiquement et elle rentrait souvent ensanglantée, mais très heureuse. Parce que son père lui avait mis dans la tête qu'elle avait le tempérament d'un garçon et elle-même, elle s'en était convaincue finalement qu'elle était plus ou moins un garçon manqué.
Lafargue écrit, alors qu'il est avec elle et qu'elle est adolescente, à Marx, la chose suivante, « Elle a besoin de vous à ce qu'il paraît pour vivre. » Et c'est dire, à mon avis, ce « Elle a besoin de vous pour vivre », la place que l'amour du père a tenue dans sa vie. Une lettre qu'elle lui envoie quand elle a 10 ans. « Tu ne peux rester absent toute une quinzaine sans écrire. » Je ne te le pardonnerai jamais. Je ne cesse de chanter que ne suis-je un oiseau pour m'envoler vers toi et murmurer un petit mot tendre à un être qui m'est si cher. 10 ans.
Entre la mort de Jenny, femme de Marx, et la mort de Marx, il y a eu quand même presque une dizaine d'années, et il était tout seul, Karl Marx, à ce moment-là. C'était Léonore qui s'en est occupée, en définitive. Elle allait avec lui, elle s'occupait de lui, elle veillait. Elle s'amuse pas toujours beaucoup, d'ailleurs.
Dans la vieille cité française existe une race de fers dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Er war viel älter als sie und er war auch ein politischer Flüchtling.
Lisa Garay était un homme plus âgé qui était également un réfugié politique et c'est chez ses parents donc qu'elle en a fait la rencontre. Lisa Garay venait de Paris, il avait participé aux événements de la Commune et il avait beaucoup écrit, il a écrit un énorme livre, il était reporter et journaliste et il avait donc lui-même participé à la Commune et lorsque les communards ont échoué, oui, eh bien, il a dû quitter la France. C'était un Français d'origine basque. C'était un homme qui était très séduisant, très charismatique. Et donc, Toussy, qui avait 16 ans, est tombée éperdument amoureuse de lui. Néanmoins, Karl Marx a opposé une fin de non-recevoir à cette relation. Il était très véhément, il était très opposé à cette relation.
Il y a des lettres qui sont poignantes où elle supplie son père de pouvoir lui écrire et elle va tomber en dépression, ce qu'on peut comprendre. Son père l'empêche de répondre aux lettres, d'écrire, la sépare tout en acceptant qu'elle traduise cette histoire de la Commune. Donc elle est dans une position, elle est déjà là complètement crucifiée, enfin tiraillée entre à la fois le devoir de participer à l'histoire de la cause, et puis le sacrifice de son amour. En même temps, on peut imaginer que Marx avait ses raisons. Il a toujours écrit que s'il avait su la misère dans laquelle qu'il ferait subir à sa femme, il se serait jamais marié, qu'il voulait surtout pas que ses filles vivent ce qu'avait vécu sa femme. Et il voyait bien que ce Lisa Garay, tout sympathique qu'il était, et bon écrivain de la Commune, n'avait pas forcément de quoi faire vivre Toussy. Et puis finalement, peut-être aussi qu'au bout des 7 ans, elle est moins attachée à lui, elle va faire une vraie dépression, se séparer, donc lui déclarer la rupture. Là, on voit la charmante jeune fille qu'elle devient. Donc là, on la voit un peu à la fois tendre et décidée, mais enfin assez féminine. Là, elle est plus garçon manqué, elle est plus capitaine de vaisseau, me semble-t-il. Donc là, on voit, je trouve, cette espèce, ce regard qu'on voit toujours, qui est un des grands yeux, très, alors aussi très ouvert, mais très très accueillant. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de la générosité du personnage. Évidemment, je projette ce que je sais d'elle, mais enfin, je trouve qu'on le voit quand même.
Éléanore a eu un rôle très important parce que elle a été la dernière. Donc, faire connaître les œuvres de Marx, diffuser les copies, réunir la documentation, c'était absolument essentiel. Elle s'est donné un rôle, on peut dire, d'archiviste. Elle voulait réunir les correspondances, les éditions originales, quelquefois d'ailleurs en se bagarrant un peu avec ceux qui, parce que comme il y a eu quand même une prise de conscience de l'œuvre de Karl Marx, il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour avoir les manuscrits, donc il y avait une véritable concurrence. C'est une femme sincère, généreuse, qui croit en définitive à la parole des gens et à la pensée de son père, et qui sacrifie sa vie pour ça.
Ça reste un patriarche, Marx, et surtout, même quand il est mort, son ombre plane pendant des années sur le mouvement ouvrier allemand et anglais, enfin, et européen de manière générale. Et je pense pas qu'Eleanor Marx soit jamais vraiment, et ni même n'ait eu l'envie de se défaire de l'ombre de son père.
Elle porte le poids du père, le poids de la révolution et le poids de la condition des femmes.
J'étais pas du tout une spécialiste de Marx. Moi, je suis éditrice féministe et je m'intéresse à la façon dont on efface les femmes de l'histoire, de l'édition, de la littérature.
Valérie Lefebvre-Fauché, éditrice et essayiste.
Parmi les spécialistes de Marx autour de moi, tout le monde connaît tellement Marx et sa vie et tout ce qui l'entoure. Et donc, tout le monde connaît l'existence de ces femmes, mais personne n'était capable de me dire vraiment qui elles étaient, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles pensaient. Donc ça a beaucoup piqué ma curiosité. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on s'était pas plus intéressé à elles, pourquoi est-ce qu'on les avait pas considérées avec sérieux dans l'histoire de l'édition. Je ne suis pas certaine qu'Eleanor Marx elle-même ait souhaité de la reconnaissance. C'était quelqu'un qui défendait l'idéal d'un groupe. Donc elle-même a contribué d'une certaine façon à son propre effacement.
Quand elle participe à l'animation de ces grèves d'ouvrières, souvent les ouvrières sont encore plus exploitées que les ouvriers. Ont des salaires plus bas, entre un tiers et la moitié de ce que gagnent les ouvriers, hein, et puis des conditions de travail parfois abominables, très dangereuses. Elle est très révoltée, hein, Eleanor Marx, et on sent dans beaucoup de ses textes cette sensibilité, cette empathie avec la condition des autres qu'elle rencontre et qu'elle côtoie.
La société est en faillite morale. Et c'est dans les relations entre les hommes et les femmes que se manifeste cette faillite avec la clarté la plus repoussante. La question féminine participe de l'organisation de la société dans son ensemble. Ceux qui s'en prennent à la façon dont sont actuellement traitées les femmes, sans en chercher la cause dans l'organisation économique de notre société contemporaine, sont comme les docteurs qui soignent une affection localisée sans examiner l'état général du patient. Pour nous débarrasser de la prostitution, nous devons nous débarrasser des conditions sociales qui l'engendrent. Que l'on se débarrasse du mode de production capitaliste, disent les socialistes, et la prostitution disparaîtra.
Eleanor Marx s'est beaucoup intéressée aux femmes, a écrit sur elles et a beaucoup parlé d'elles. Si on considère que le féminisme est un mouvement autonome pour l'égalité et la liberté des femmes, pour elle, c'était pas la priorité. Sa priorité, c'est le social. Autrement dit, c'est vrai qu'elle s'intéresse beaucoup plus aux ouvrières qu'aux bourgeoises. Et elle pense, comme Karl Marx, comme Engels, que la solution des rapports entre les sexes, ça sera la révolution.
Ce que je trouve intéressant, c'est que chez Eleanor Marx, dans ses écrits donc sur la cause des femmes, il y a déjà l'idée qu'en fait, qu'on retrouve plus tard chez d'autres autrices, que en fait, la cause des femmes n'est pas uniforme, elle est aussi traversée par des enjeux de classe. Elle écrit également que les femmes, encore une fois, à l'instar des travailleurs, ont été privées de leur droit d'être humain. Ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est qu'elle travaille les similarités et les différences entre les prolétaires et les femmes. Il y a cette citation-là de son texte. « Les femmes sont soumises à une tyrannie masculine organisée comme les ouvriers sont soumis à la tyrannie organisée des oisifs. » Il y a toujours ce parallèle chez elle entre le prolétariat et les femmes. Hein. Je ne pense pas qu'Eleanor Marx parlait de patriarcat. Comme elle n'emploie pas le mot, je pense que le concept n'était pas là. Je pense que ça fait une importance aussi dans la manière dont elle pouvait conceptualiser et réfléchir les rapports hommes-femmes.
Elle est vraiment une propagandiste de son père. Par contre, il lui arrive de pousser les idées un petit peu plus loin. Elle a des coups d'éclat. Puis aussi, elle rajoute une complexité, je pense, surtout en ce qui concerne la condition des femmes. Elle ajoute des préoccupations qui sont quand même, je pense, originales et surprenantes pour l'époque. Elle parle d'intimité, elle parle d'amour, de désir, de plaisir pour les femmes. Elle parle d'éducation pour tous, mais même d'éducation sexuelle. On est à la fin du 19e siècle, avant Emma Goldman, avant Alexandra Kollontai. Des questions comme celles-là sont vraiment scandaleuses à l'époque. Elle parle aussi de leur misère, de leur souffrance de façon plus générale. Elle élargit aussi subtilement ce qui est considéré comme du travail. Elle parle un peu de travail domestique même. Elle parle du double fardeau des femmes et souhaite que dans une société socialiste, ces tâches domestiques soient partagées par tous. Elle parle aussi de ce qu'on appellerait aujourd'hui la violence conjugale. Elle lie cette violence, bien sûr, aux injustices économiques.
Il n'y a pas plus de vocation naturelle de la femme qu'il n'y a une loi de production capitaliste naturelle. Que dans le premier cas, la vocation de la femme soit censée résider dans l'éducation des enfants, la tenue de la maison et l'obéissance à son maître ne sont pas des lois naturelles. Ce ne sont que des conventions sociales temporaires.
Le féminisme existe à l'époque victorienne, absolument. Il y a des femmes anglaises très engagées, les Pankhurst, pour ne citer qu'elles, qui se battent pour les droits au travail, les droits civils, les droits des femmes.
Nous nous battons pour que dans un avenir proche, chaque petite fille qui viendra au monde puisse bénéficier des mêmes chances et des mêmes droits que ses frères. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois.
Discours d'Emmeline Pankhurst.
Eleanor Marx n'accordait pas une très grande importance à la conquête des droits politiques des femmes. Donc, elle est sans doute sympathisante avec le mouvement féministe anglais, mais c'est pas son affaire. Eleanor s'agace un petit peu des féministes anglaises et françaises. Le féminisme de ces dames, c'est un petit peu un luxe, et un luxe bourgeois.
C'est une masse courageuse et admirable qui lutte. En premier lieu, les intéressés proviennent en règle générale des couches aisées. Le point suivant est que toutes les idées de ces femmes à l'avant-garde ont pour fondement soit la propriété, soit des questions sentimentales ou professionnelles. Le troisième point est issu du second. Celles dont nous parlons ne font aucune proposition qui sorte du cadre de la société d'aujourd'hui. Sans cette transformation sociale, les femmes ne seront jamais libres. La dissolution de l'union signifierait la liberté pour lui, la fin pour elle et ses enfants.
Léonard Marx a traduit des œuvres qui parlent des femmes dans l'intimité de leur aliénation. Et oui, je pense que c'est une manière pour elle d'exprimer, de faire connaître la condition des femmes d'une façon qui dépasse cette lutte économique. Il y a des choses qui passent différemment dans un discours politique et dans une œuvre littéraire. Oui, elle profite certainement de la littérature pour dénoncer la souffrance des femmes dans l'intimité, l'impossibilité pour elles de vivre, de donner libre cours à leurs désirs, de s'épanouir en amour, d'avoir de l'affection, d'être libre de décider pour leur vie.
Quand elle traduit par exemple la maison de poupée d'Ibsen, c'est ça en fait. C'est l'idée que dans le mariage bourgeois, la femme n'a pas toute sa place, quoi.
Mais c'est avec bonheur, Nora, que j'aurais travaillé pour toi nuit et jour. J'aurais tout supporté, soucis et privations. Mais il n'y a personne qui offre son honneur pour l'être qu'il aime.
Des milliers de femmes l'ont fait.
Ou tu penses comme un enfant, tu parles de même.
Admettons. Mais tu ne penses pas, toi, et tu ne parles pas comme l'être qu'il me serait possible de suivre. Une fois rassuré, non sur le danger qui me menaçait, mais sur celui que tu courais toi-même, tu as tout oublié. Je suis redevenue ton petit oiseau chanteur, ta poupée que tu étais tout prêt à porter sur tes bras comme avant, avec d'autant plus de précautions que tu l'avais reconnue plus fragile. Écoute, Thorvald, en ce moment-là, il me parut que j'avais vécu 8 années dans cette maison avec un étranger et que j'avais eu 3 enfants. Je ne puis pas seulement y penser. J'ai envie de me déchirer moi-même en 1000 morceaux.
Je le vois, hélas, je le vois bien. Un abîme s'est creusé entre nous. Mais dis-moi, Nora, ne peut-il pas être comblé?
Telle que je suis maintenant, je ne puis être ta femme.
Elle a joué au théâtre des textes où il y avait des héroïnes féminines malheureuses, des héroïnes féminines exploitées. Et elle les a jouées en scène. Et par conséquent, elle a fait corps avec elles. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle avait une conscience de femme.
Nos mariages, comme nos mœurs, sont fondés sur le mercantilisme. La femme est toujours celle qui s'occupe des enfants, la gardienne du foyer. La femme doit élever les enfants pendant de longues années, sans repos pour la soulager, sans espoir pour l'épanouir, perpétuellement dans la même atmosphère de travail et de tristesse. Pour elle, l'adultère est un crime, pour lui c'est un délit mineur. Il peut obtenir le divorce sur la base de l'adultère, elle ne le peut pas. Les mariages ainsi conçus et réalisés, accompagnés de toutes ces suites de faits et de conséquences, nous semblent, et nous pesons nos mots, pire que la prostitution.
Elle va à la fois être très consciente et puis en même temps, matériellement, concrètement, dans le réel, elle va souffrir complètement de tout ce qu'elle dénonce. Alors, l'autre photo, ce qu'on voit aussi, à mon avis, très bien, c'est qu'elle est, ce qu'on disait assez souvent, assez austère, donc elle n'était pas dans les froufrous et les chichis. Alors là, je pense que ça doit être la période, probablement, où elle a décidé de déclarer ça et de vivre maritalement avec ce Edward Aveling. Et elle est, y a une nouvelle vie qui commence, et donc elle veut croire au bonheur aussi. Donc je dirais que là, c'est... Et elle est aussi à la fois très... Elle est souriante, là, et très, très présente.
L'autre grand amour de Toussy, c'est Edward Aveling. Qui est-il ?
Édouard Evelyn, c'était un personnage très ambivalent qui n'était pas estimé, beaucoup estimé dans son entourage, bien que ce fût quelqu'un de très certainement intelligent. Il était biologiste, zoologue, botaniste, il rédigeait dans des revues scientifiques. Il est apparu curieusement le jour de l'enterrement de Karl Marx et a commencé à fréquenter Eleanor. C'était un homme qui était déjà marié et qui vivait certes séparé depuis très longtemps de sa femme, mais qui était néanmoins marié. Et on peut le décrire comme quelqu'un de profondément malhonnête. Alors déjà, il était infidèle, mais c'était également un escroc, puisque financièrement, il a... floué des tailleurs juifs de l'East End. Il se faisait coudre de coûteuses vestes en soie qu'il n'a jamais payées. Il avait contracté des emprunts financiers qu'il n'a jamais voulu rembourser. Et puis, même humainement, il était connu aussi pour, à plusieurs reprises, avoir attaqué oralement et humilié Eleanor publiquement.
Et puis la dernière photo, on voit tout ce qu'elle va devenir, à peine coiffée. On a l'impression que les cheveux sont rassemblés derrière, ça vient comme ça veut sur le front. Et il n'y a rien qui cherche à séduire, et surtout l'expression du visage, je trouve, là, on y voit quand même, me semble-t-il, du malheur. C'est-à-dire qu'on y voit déjà de la dépression, une sorte de fatalisme, et en même temps une volonté, puisque c'était quand même ce qui l'a caractérisé, une énergie de vivre, et en même temps quelque chose qui entrave cette énergie.
On connaît un peu l'organisation du couple Eleanor Aveling. Il est très traditionnel. Autrement dit, il n'y a aucune division du travail dans le couple. C'est Eleanor qui fait tout et qui assume tout. Est-ce qu'elle proteste tellement contre ça? Pas tant que ça, parce que au fond, il y avait un tel poids de l'idéologie victorienne que même dans un milieu contestataire, comme était le milieu des Marx, on remet pas ça tellement en question.
Elle est un champ de contradictions. Elle est prise dans son époque comme on l'est tous, hein, et puis on ricanera bien de nous quand, dans 50 ans, on parlera de plein de choses dans lesquelles nous sommes engagés nous-mêmes.
Le fait est que je suis épuisée et que je n'ai souvent pas la force d'écrire. C'est un mauvais moment pour moi. Je crains qu'il ne me reste que peu d'espoir et que la douleur et la souffrance soient grandes. Je suis prête à partir et je le ferai avec joie. Mais aussi longtemps que Edward aura besoin d'aide, je resterai obligée.
Je pense qu'elle était très consciente de sa situation de femme aliénée et qu'elle en souffrait. Je pense qu'elle se voyait défendre Aveling en public et que ça la faisait souffrir, oui. Je pense qu'elle était bien coincée dans son rôle de semi-épouse d'Aveling.
La correspondance d'Eleanor Marx est traversée par le sentiment de la solitude. La solitude est un sentiment qu'elle ressent, qui l'accompagne et qui la rend dépressive, mélancolique, voire dépressive, anorexique à certains moments. Et la solitude, c'est la solitude à la fois familiale, ses parents la quittent, enfin c'est la quitte parce qu'il meurt, tout simplement. Ses sœurs s'en vont en France. Elle ne peut pas épouser Lisa Garret, donc solitude. Et Aveling, Aveling est vraiment le plus décevant des hommes qu'on puisse imaginer. Elle est seule devant les événements, hein, une femme seule dans son couple, dans une maison, souvent vide, sans enfants. C'est pas extrêmement gai.
La vie d'Eleanor Marx se transforme peu à peu en calvaire. Malgré le décès de sa première épouse, Edward Aveling préfère se remarier secrètement à une jeune actrice. Souvent absent, il revient cependant auprès de la fille Marx pour recevoir ses soins lorsqu'il se sait gravement malade. Et il n'hésite pas à la voler, alors que, refusant l'aide de Friedrich Engels, elle vit dans le dénuement.
Je suis tellement entourée de problèmes et sans aide, car Edward lui-même ne m'aide plus du tout, que je sais à peine quoi faire. On me demande quotidiennement de l'argent, ce à quoi je ne sais pas comment répondre.
Lorsque Toussy apprend que son père a eu un enfant caché avec la domestique de la famille, elle se sent trahie. Et la menace d'une ligne réformiste à l'intérieur du Parti socialiste britannique, la volonté de mainmise sur les écrits de Marx et Engels de la part du Parti communiste allemand, sonne comme autant de coups durs. Et cette révolution, qu'elle pense si proche, et qui ne vient pas.
Je suis si seule, et je dois faire face à une situation des plus épouvantables. La ruine totale jusqu'au dernier penny, ou la honte la plus profonde devant le monde entier. C'est effrayant. J'ai le cœur brisé.
C'est un courrier de chantage qu'évoque Eleanor Marx. Cette lettre l'accule soit à l'écroulement de sa réputation politique, soit à la ruine financière. De qui vient cette missive ? D'Edward Aveling lui-même, qui chercherait de l'argent pour un bébé né d'une relation illégitime, murmure-t-on ? Ou d'ailleurs ?
La seule chose qu'on sache, c'est qu'elle avait véritablement tout prévu avec sa femme de ménage. Elle donc l'a envoyée à la pharmacie, l'a envoyée chercher du chloroforme et un poison pour euthanasier un animal, qu'ils avaient un chien, qu'ils avaient. Et puis la jeune fille donc s'est exécutée, a apporté ce qu'il fallait de la pharmacie, elle-même a pris un bain, s'est bien habillée, et puis voilà, elle a donc commis l'irréparable. Et puis ensuite, une fois que Aveling était rentrée, eh bien tout était déjà terminé.
Au fond, il y a une parenté étrange, étonnante entre les textes qu'Eleanor écrit ou fait circuler et sa propre vie. L'aliénation des femmes est décrite d'une façon assez malaisante. On présente le suicide des femmes comme une réaction cliché, assez classique à la frustration sexuelle et amoureuse des femmes et à l'impossibilité pour les femmes d'avoir de la liberté dans leur vie intime. Et donc, c'est comme si elle expliquait elle-même d'avance, en la ridiculisant un peu, sa propre mort.
Eleanor Marx meurt le 31 mars 1898, à 43 ans. Ses proches accusent Edward Aveling de l'avoir assassinée pour mettre la main sur l'héritage de l'œuvre de son père. Quoi qu'il en soit, il décède 4 mois après elle. Longtemps, l'urne dans laquelle reposent les cendres de Toussy est conservée dans un coin d'une bibliothèque dédiée à son père, avant de rejoindre le caveau familial en 1956. À la mort d'Eleanor Marx, le journal français La Fronde qualifie Toussy de brillante personnalité féministe. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de surinterprétation ou d'anachronisme ?
Il est probable qu'il y ait une surinterprétation parce que Eleanor ne s'est jamais voulue féministe. Mais on peut aussi dire qu'elle l'était. Voilà. Elle s'est battue pour les femmes, elle reconnaît les difficultés des femmes, elle l'écrit, elle le dit. Hein. Donc, il est légitime que les féministes la revendiquent comme leur.
Il y a certainement un anachronisme quand on utilise le mot féminisme pour parler d'elle aujourd'hui, non seulement Eleanor, mais les Marx étaient des féministes. Je le dis en rigolant un peu parce que je sais bien qu'il y a quelque chose de grossier et d'anachronique là, mais surtout, je sais que ça choque des gens. Mais je le pense pour vrai. Pour Eleanor Marx, aucun être humain ne devrait posséder un autre être humain, d'aucune manière d'ailleurs. Et ça, c'est la base de son socialisme. C'est un socialisme qu'on pourrait même dire un peu intersectionnel avant la lettre. Donc, j'aurais envie, moi, de redire cette phrase qu'elle a déjà dite. Elle avait dit « En tant que socialiste, bien sûr que je ne suis pas militante du droit des femmes, mais moi, j'ai envie de dire « En tant que socialiste, bien sûr qu'elle est féministe ».
C'était Eleanor Marx, Quand l'époque vous rattrape. Avec Anne Longuet-Marx, Véronique Fauvincenti, Fabrice Ben-Simon, Eva Westweiler, Michel Perrault, Éric Lafont, Camille Le Boulanger et Valérie Lefebvre-Fauché. Merci au Musée des Cultures Vivantes à Montreuil et au Salon de thé Ticadi à Paris. Extrait du discours d'Eleanor Marx à Hyde Park, Londres, le 4 mai 1890, de la brochure « La question de la femme » d'Eleanor Marx et d'Edward Aveling, publiée en 1886, et de la correspondance d'Eleanor Marx, le tout lu par Axel Bossard. Traduction de la langue allemande, Linda Mansouri. Archivina, Delphine André. Extrait de « Sur les traces de Karl Marx à Londres » de Pierre Descargues. La Commune de Paris, Dernière Révolution avant la République, d'Anaïs Quien. Maison de poupée, d'Henrik Ibsen. Prise de son, Michael Simon, Élise Leu, Anthony Thomasson et Paul Guig. Mixage, Benjamin Vignal. Réalisation, Rafik Zénine. Attaché d'émission, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Philippe Roisès.